Merci Rebecca, hein. Tu es une bénédiction aussi pour nous. Et moi je suis ému par ce matin par tout ce que j'ai entendu, par tout ce que j'ai lu. Et j'espère que vous aussi vous êtes bénis. Alors, je commence ma prédication par bonjour, très chers frères et sœurs en Christ. Bonjour à vous toutes et vous tous qui êtes là ce matin rassemblés. Et si vous êtes rassemblés, c'est pour rendre une gloire à Dieu. Est-ce que vous vous sentez bénis dans vos vies? Est-ce que vous êtes aussi bénis dans vos couples et dans vos familles? Ressentez-vous l'immensité, la profondeur de l'amour bénissant de Dieu dans vos cœurs ce matin? Oui? Oui? Eh bien, dans ce cas, nous allons parler de vous ce matin. C'est personnellement de vous que nous allons parler. Pour les autres, eh bien, restez, car le message de ce matin vous concerne aussi. En fait, ce message concerne tout le monde, que vous soyez béni ou pas béni. En réalité, nous ne comprenons pas toujours très bien ce qu'est la bénédiction et pourquoi nous sommes bénis. Frères et sœurs, la prédication de ce matin a pour but d'ouvrir nos yeux, notre intelligence, nos oreilles, afin de comprendre ce que la Bible, la parole de Dieu, eh bien, a à nous enseigner à ce sujet. Et je propose de commencer par un très court instant de savantologie. C'est un mot qui n'existe pas, mais que j'ai inventé. Il y a quatre termes bibliques qui désignent la bénédiction. Tout d'abord, le terme bénédiction vient du verbe bénédicere, dire du bien de quelqu'un. Le deuxième mot, c'est le mot hébreu beraka, grâce accordée par Dieu et qui comble l'homme fidèle. Il y a aussi eulogia, terme grec désignant les grâces matérielles et spirituelles prononcées par Jésus-Christ à l'homme. Et puis enfin, le mot grec makarios, qui signifie « béni » ou « heureux » et qu'on retrouve dans les béatitudes. Voilà. Bon, je vous assure, c'est les derniers mots vraiment du dictionnaire que je sors. Alors, en réalité, la bénédiction est une grâce imméritée. C'est un bienfait que Dieu accorde à sa création et il va le faire à deux niveaux. Alors, le premier niveau, il bénit sa création en général, sans distinction de personne. Et puis la deuxième, il bénit d'une manière particulière celles et ceux qui le reconnaissent, qui le respectent, qui suivent ses commandements. Alors vous le savez tous, frères et sœurs, j'espère en tout cas que Dieu est amour. Amen. Oui, Dieu est amour. Et dans son amour, il bénit sans différence les bons et les méchants, les justes et les injustes. C'est quelque chose d'incroyable. Matthieu 5, 45 dit ça. « Votre Père céleste fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons. Et il accorde sa pluie à ceux qui sont justes comme aux injustes. » Heureusement, parce qu'il pleuvrait sur les justes et puis pas sur les injustes. Ce serait... Son amour incommensurable, c'est-à-dire illimité, eh bien, il bénit même celles et ceux qui lui sont hostiles. Christ nous invite, nous chrétiens, de la même manière, à prier et à bénir les incroyants et ainsi imiter notre Père Céleste, afin que les injustes, selon la Bible, eh bien, soient touchés et puis changent de vie. Alors, si Dieu bénit tout le monde, très peu sont ceux qui reconnaissent en lui l'auteur de la bénédiction. Pire, ils ne reconnaissent même pas qu'il s'agit d'un bienfait. On les entend souvent dire, et moi j'étais le premier quand j'étais pas chrétien, dire « on n'en peut plus de cette horrible chaleur, il y en a marre de cette pluie ». C'est vrai, on ne reconnaît même pas que ça c'est une grâce qui vient de Dieu. Parce que comment pousseraient les plantes s'il n'y avait pas de pluie? Écoutez plutôt ce que dit l'apôtre Paul à ce sujet, dans Romains 1, verset 20. Il dit « depuis toujours, les hommes qui ont sous les yeux la terre et le ciel, ainsi que tout ce que Dieu a créé, eh bien, ont forcément connu l'existence de Dieu et son pouvoir éternel. Ils n'ont donc aucune excuse de dire qu'ils ne savent pas s'il y a un Dieu. Dieu, dans son amour créateur, a largement comblé la terre de bénédictions naturelles et merveilleuses. Dans ses diversités, par exemple, animales et végétales, qu'il a artistement dessinées, à tel point qu'on ne peut plus douter qu'une intelligence créatrice en est l'auteur. Et pourtant, eh bien, l'homme attribue à la nature seule ce pouvoir créateur. Que la nature fait bien les choses. Voilà, on ne dit jamais « Oh là là, que Dieu a bien fait les choses ». On entend souvent dire « Oh là là, la nature est merveilleuse, comme elle fait bien les choses ». Ce refus de reconnaître Dieu derrière les bénédictions de la nature montre toute l'ingratitude d'un monde qui vit et raisonne sans Dieu. Et malgré tout, sans relâche, Dieu continue de bénir ce monde ingrat. C'est incroyable. On ne ferait pas ça, nous. Et puis, deuxièmement, il y a la bénédiction particulière. Dieu, par contre, bénit d'une façon toute particulière toutes celles et ceux qui le reconnaissent, le respectent, le suivent et pratiquent ses commandements. Ce sont les croyants, les servantes et serviteurs de Dieu. De tout temps, Dieu a appelé des hommes, des femmes à reconnaître sa déité, c'est-à-dire qu'il est Dieu. Il a par exemple appelé Abraham, puis à travers sa descendance, le peuple d'Israël, afin de les bénir. Pour quelle raison les a-t-il bénis ? Afin que ce peuple soit une lumière pour les autres peuples, que sa bénédiction interpelle les nations. À Abraham, Dieu dit, et écoutez bien ce qu'il lui dit à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu seras une source de bénédiction. » Tu seras une source de bénédiction. « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. » Et là, écoutez bien, « Et toutes les familles de la terre, c'est-à-dire tous les peuples, seront bénis en toi. » Vous voyez, nous sommes bien dans le thème. Alors le beau et grand projet de Dieu de bénir son peuple, se heurte à la dure réalité des cœurs. Le peuple choisi, qui connaît Dieu, est un peuple au cœur rebelle, qui n'accomplit pas la tâche que Dieu lui a confiée. Il ne glorifie pas Dieu. Et Dieu pleure sur l'inconstance de son peuple. Il compare Israël à un beau pied de vigne, bercé d'amour, comblé de soins. Dieu lui a tout donné. Il a tout donné à ce pied de vigne pour qu'il pousse bien. Et pourtant, Ésaïe 5, verset 2, il attendait donc de sa vigne de beaux raisins, mais elle n'en a produit que de mauvais. Soyez les juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire pour ma vigne que moi, Dieu, je n'aurais pas fait ? Voyez, Dieu, il est clairement déçu de son peuple. Et sa déception se transforme en colère contre Israël. Ésaïe 5, versets 5 et 6. Voilà ce que je vais faire à ma vigne. J'arracherai sa haie pour qu'elle soit broutée. J'en ferai une friche. Nul ne la taillera. Les ronces et les épines y croîtront librement. Et j'interdirai, alors ça c'est extraordinaire, et j'interdirai aux nuages de répandre leur pluie sur elles. J'interdirai aux nuages. Vous vous rendez compte, la puissance de Dieu qui peut interdire aux nuages de verser la pluie. Frères, sœurs, à travers cette parabole de la vigne, Dieu montre qu'il bénit, soutient, encourage son peuple, ses servantes et serviteurs, lorsque ceux-ci répondent à son attente. À son attente de produire de beaux fruits spirituels qu'il a plantés en eux et non de mauvais. Dieu bénit Israël, son peuple, parce qu'il l'aime, et il bénit le pays qu'il a préparé pour son peuple. On trouve ça dans Deutéronome 11, verset 12. « Le pays où tu vas pénétrer pour en prendre possession est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend lui-même soin et sur lequel il veille continuellement du début à la fin de l'année. » Alors, lorsque le peuple d'Israël, après avoir passé 40 ans quand même dans le désert, arrive en terre promise, Eh bien, la première chose que Dieu dit à Moïse, allez, tu divises le peuple en deux. C'est extraordinaire. Fais monter les 6 tribus de Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Joseph et Benjamin sur le mont Garizim, afin de prononcer toutes les bénédictions qui vous accompagneront si vous restez fidèles à l'Éternel. Puis fais monter les tribus de Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan et Nephtali sur le mont Ebal pour prononcer les malédictions qui accompagneront votre infidélité. Alors, ce que je vais dire à présent, j'ai hésité à le dire, mais pourquoi a-t-il choisi ces tribus? Parce que, c'est vrai, pour Dieu, tout a de l'importance. La fidélité comme l'infidélité, et il note toutes les infidélités du peuple. Vous savez que Dieu est esprit, et avec lui, tout est symbole. Les 6 premières tribus correspondent à la descendance de Jacob. Jacob, c'était le petit-fils d'Abraham. Ce sont les 6 patriarches issus des femmes légitimes, c'est-à-dire Léa et Rachel. Ces fils, ces tribus, marquent la fidélité à l'ordre de Dieu. C'est donc cela que Dieu attend de son peuple. Il veut un peuple fidèle. Voilà la descendance des femmes légitimes. Sur l'autre mont, eh bien, ce sont les 4 fils que Jacob a eus avec les servantes de Léa et Rachel, c'est-à-dire Bila et Zilpa. Ruben, lui, le fils aîné, a été déchu de son droit d'aînesse, puisqu'il est monté sur la couche de son père et a eu une relation avec Bila, la concubine de Jacob. Ces 6 tribus représentent l'infidélité, le rejet de l'ordre de Dieu, ce sur qui repose la colère de Dieu et la malédiction. Vous voyez, ces deux monts, ces deux peuples, ces 6 tribus et 6 tribus. Dieu veut clairement un peuple fidèle, un peuple qui honore ses commandements, et il place devant lui un choix de vie. Attache-toi à moi, sois fidèle, respecte et pratique mes commandements, afin que je te bénisse chaque jour de ta vie. Mais si tu m'oublies, si tu te montres infidèle et te comportes comme les autres peuples qui servent leur Dieu, eh bien tu seras maudit. Alors peut-être dites-vous à ce moment du culte, « Ouh là 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 là, où il nous emmène le Daniel ?» On est en 2025 et il nous parle du peuple d'Israël, dirigé par Moïse. Ça n'a rien à voir avec nous. Ça ne nous concerne pas. Eh bien, ceux qui pensent ça, détrompez-vous, frères et sœurs. Car la Bible nous rappelle que nous sommes, nous, le nouveau peuple de Dieu. Et nous le sommes devenus par et en Jésus-Christ. Vous savez, dans une image agricole saisissante, l'apôtre Paul dit même que nous avons été greffés sur la souche de base qui est Israël. C'est incroyable. Romains 11, verset 17. Si quelques branches d'Israël ont été coupées, toi qui as une origine païenne, c'est-à-dire nous, tu as été greffé à leur place. Et voici que maintenant, tu as part avec elle à la sève qui monte de la racine. C'est beau. C'est une belle image. Ceux d'Israël qui ont été coupés de la racine sont ceux qui n'ont pas suivi Dieu. Ceux qui ont été greffés sont ceux qui ont cru en Jésus-Christ. C'est-à-dire nous, ce matin. Voilà le nouvel arbre, le nouvel olivier, le nouveau peuple de Dieu. C'est nous. Ce nouveau peuple de Dieu décrit par l'apôtre Pierre, eh bien, frères et sœurs, c'est nous, c'est vous, c'est nous tous qui sommes rassemblés là ce matin. Nous qui, par la foi, avons cru en Jésus-Christ. 1 Pierre 2, versets 9 et 10, voilà ce qui est marqué. Mais vous, il parle de nous, hein, Pierre s'adresse à nous, vous êtes une race élue, comme Israël. Nous avons été choisis par Dieu. Mais nous avons été choisis, comme nous l'avons chanté ce matin, parce que nous croyons en Jésus-Christ par la foi. Vous êtes une communauté de rois-prêtres. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, dans l'Ancien Testament, personne ne pouvait s'approcher de Dieu. C'est le prêtre seul qui servait d'intermédiaire. Aujourd'hui, nous pouvons nous tenir directement et sans crainte dans la présence divine. Vous êtes une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis. Voyez, lavé par le sang de Jésus, sauvé par la mort de son Fils à la croix, eh bien Dieu nous a acquis à un très grand prix pour que nous soyons son nouveau peuple. Maintenant, nous sommes le nouveau peuple de Dieu. Pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Pourquoi Dieu nous a-t-il acquis ? Pour que nous travaillions comme des forcenés, pour qu'on lui montre de quoi on est capable ? Mais pas du tout. Car Dieu a déjà tout fait, tout accompli. Dieu nous a acquis à très grand prix pour nous bénir, pour nous bénir. Il nous a fait passer des ténèbres à sa lumière et pour que nous lui témoignions de la gratitude en témoignant son amour autour de nous au monde. Dans sa seconde lettre aux chrétiens de Corinthe, l'apôtre Paul précise ce que Dieu attend spécifiquement de nous. 2 Corinthiens 5,18. Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ nous a confié, entendez bien ça, le ministère de la réconciliation, puisque Christ nous a réconciliés avec le Père en mourant sur la croix et en portant nos péchés sur lui. C'est une bénédiction spirituelle en même temps qu'une grâce infinie, cette réconciliation avec Dieu. Nous sommes à présent réconciliés avec Dieu. Dieu nous demande dès lors, 2 Corinthiens 5,20, soyez des ambassadeurs au nom du Christ. Qu'est-ce qu'il fait un ambassadeur ? En adressant cette invitation aux hommes, au nom du Christ, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Alors c'est vrai, collectivement, sœurs et frères, nous faisons partie du nouveau peuple de Dieu, mais individuellement, nous sommes fils et filles de Dieu. Et comme sur les monts Ebal et Garizim, Dieu a placé devant Israël le choix entre la bénédiction et la malédiction. Vous vous rappelez, il fallait choisir entre les deux. Eh bien, Dieu place ce même choix aujourd'hui devant chaque homme et chaque femme. Jean 3,36, voyez ce choix. Celui qui croit au Fils, il a la vie éternelle. C'est marqué, celui qui croit au Fils aura la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a dès maintenant la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils, il ne verra pas la vie éternelle. Mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. C'est un texte clair où il y a un choix entre croire et ne pas croire. Ce choix capital que Dieu place devant chaque être humain, va déterminer à la fois sa vie présente, que Dieu va combler de bénédictions. En choisissant de croire en Jésus-Christ, on ouvre à Dieu une porte à la bénédiction. Vous voyez, c'est une porte qui s'ouvre, et derrière, il y a plein de bénédictions que Dieu peut nous accorder, parce que nous sommes réconciliés avec lui. Mais cela va aussi déterminer, et ça c'est important, parce que c'est vrai, cette vie, elle peut durer 80 ans, peut-être 100 ou plus, ou 120. Mais la vie éternelle, il n'y a pas de fin. C'est extraordinaire. Cela va aussi déterminer sa vie future en lui assurant dès maintenant la vie éternelle. Vous en doutez ? Luc 23, versets 39 à 43, nous présente deux malfaiteurs crucifiés avec Jésus. L'un d'eux l'insultait en disant « Ah ah, n'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous » L'autre le reprenait et disait « N'as-tu aucune crainte, toi, de Dieu ?» Puis il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Vous voyez, il le reconnaît comme son sauveur, il le reconnaît comme le Christ. Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Croire, c'est assurer sa vie éternelle. C'est pas une bénédiction, ça ? Ces deux malfaiteurs cloués sur la croix, ces deux pécheurs encadrant Jésus, représentent ce monde perdu dans lequel nous vivons. Un monde perdu, condamné, placé devant un choix crucial. Une partie du monde rejette Jésus, c'est l'humanité qui court à sa perte, qui vit sous la malédiction, sous la colère divine. L'autre accepte. Il accepte Jésus, il le reconnaît. C'est le monde qui s'ouvre à la bénédiction divine, au salut, à la vie éternelle. Avez-vous fait ce choix de vie? L'avez-vous fait? Un homme qui avait eu une vie très difficile, semée d'embûches, mourut. Lorsqu'il parut devant Dieu, au jour du jugement, il s'adressa à Dieu et lui dit « Seigneur, pourquoi n'ai-je vécu que des galères sur terre ?» Et Dieu lui répondit, en ne choisissant pas Jésus-Christ, tu as vécu la vie que tu t'es choisi toi-même. Souvent, quand on souffre, on choisit sa vie. Si la première grande bénédiction spirituelle, c'est la rencontre avec Jésus, qui nous donne la vie éternelle, la seconde, et qui n'est pas la plus insignifiante, c'est la présence du Saint-Esprit en nous. C'est ce qu'a dit Rebecca ce matin. En 1986, c'est pas tout jeune ça, j'ai été personnellement placé devant le choix de Jésus-Christ. Et en répondant favorablement à son appel, j'ai accepté de lui ouvrir tout grand mon cœur et j'ai reçu en moi ce qui a transformé ma vie, c'est la précieuse présence du Saint-Esprit. Vous le savez toutes et tous, frères et sœurs, quand Jésus entre dans un cœur qui croit, qu'est-ce qu'il fait? Il y dépose le sceau de son appartenance, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Il ne vient pas seul, Jésus, il amène le Saint-Esprit. Aux chrétiens de Corinthe, Paul demande « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ?» Est-ce que vous le savez, frères et sœurs, que vous avez le Saint-Esprit en vous? Paul poursuit en disant « Vous l'avez reçu de Dieu ». Et ce qui est extraordinaire, voilà ce qui est marqué, « Et vous ne vous appartenez plus à vous-même, je ne m'appartiens plus, car vous avez été rachetés à un grand prix. » Le prix exorbitant auquel Dieu nous a rachetés, c'est la mort de son Fils sur la croix. Voilà, c'est le prix qu'il a payé pour m'acheter. Aujourd'hui, nous ne nous appartenons plus, nous sommes la propriété de Dieu. Amen. Amen. La présence du Saint-Esprit dans le corps du croyant, c'est la deuxième grande bénédiction spirituelle. C'est la présence constante de Jésus en nous. Matthieu 28, 20 qui a rappelé Rebecca. Et voici, dit Jésus, et ça il faut le graver dans son cœur, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Si ce n'est pas une bénédiction, ça. La troisième grande bénédiction spirituelle, ce sont tous les bienfaits que le Saint-Esprit opère en nous. Il transforme nos pensées, il nous amène à la sainteté, il produit en nous, quand nous le laissons faire, tout le fruit que produit l'Esprit. Galates 5, 22, le fruit de l'Esprit, dit Paul, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, etc. Frères, sœurs, ce fruit constitue tous les attributs que Dieu nous apporte par sa présence en nous. Ce n'est pas nous qui produisons ça, on ne peut pas les produire, impossible. Tout ce fruit qui illumine la vie du chrétien, qui marche par l'Esprit, est une véritable bénédiction. Alors, c'est une bénédiction pour nous, mais aussi pour le monde non-chrétien qui nous entoure. Le monde non-croyant ne peut pas, lui, recevoir le Saint-Esprit, puisqu'il ne croit pas en Jésus-Christ. Il ne peut pas le recevoir, donc il fonctionne donc par la chair et produit ainsi des fruits bien différents de ceux de l'Esprit. Il suffit de regarder un petit peu le monde dans lequel on vit. Galates 5, verset 19-20. Les fruits de la chair sont quoi? Sont l'immoralité, les pratiques dégradantes, la débauche, l'adoration des idoles, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les divisions, les envies, etc. Voilà. C'est le monde dans lequel on vit. Frères, sœurs, Jésus, dans le magnifique sermon sur la montagne, dans Matthieu 5, verset 14, nous exhorte, nous, chrétiens, à briller de toute la lumière que le Saint-Esprit produit en nous, afin que les non-croyants qui nous entourent le voient et aient envie de venir à Dieu. Hein, quand vous voyez de belles choses, vous avez envie d'aller vers les belles choses. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même pour une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous le bois du lit. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et Jésus conclut en disant, c'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites. Voilà, nous sommes spirituellement bénis afin de transmettre cette bénédiction aux autres. C'est important. Frères et sœurs, sommes-nous bénis spirituellement? C'est un moment où on peut se poser des questions. Est-ce que nous sommes bénis spirituellement? Marchons-nous par l'Esprit? C'est quoi marcher par l'Esprit? C'est laisser faire l'Esprit qui est en nous, puisqu'on ne s'appartient plus. Il faut le laisser agir. Nous, des fois, on marche par nos propres forces. Sommes-nous des lumières dans ce monde de ténèbres? Est-ce qu'on éclaire? Est-ce que les gens autour de nous voient la différence entre eux et nous, entre le monde et nous? Est-ce qu'ils le voient? Donnons-nous envie à nos proches non-croyants de venir à Dieu, de vivre par le Saint-Esprit, d'ouvrir leur cœur à Jésus? Est-ce qu'on donne envie? C'est ça qu'on doit se poser comme question. La quatrième grande bénédiction spirituelle, ce sont tous les dons qu'accorde le Saint-Esprit à chaque croyant. Vous savez, nous recevons ces dons tout simplement. Pourquoi? Pourquoi on les reçoit? Parce qu'on est dans l'incapacité de les produire. On n'est pas capable de les produire, on n'y arrive pas. Alors j'ai inscrit la plupart de ces dons cités par la Bible sur le dessin affiché. Mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres dons. Et vous savez, nous ne recevons pas toutes et tous les mêmes dons, ni même en quantité égale. Dans sa parabole sur les talents de Matthieu 25, le maître, qui est Dieu, confie à l'un des personnages 10 talents, à un autre 5 et au dernier 1. Vous voyez, la quantité correspond à la capacité réelle de chacun. Ce qui est important, dit Jésus, ce n'est pas la quantité de dons reçus, mais notre motivation à utiliser ces dons au service des autres, de l'Église, du monde, et que tout soit fait à la gloire de Dieu. Celui qui a reçu le don de nettoyer l'Église, s'il le fait bien, mais c'est parfait, c'est parfait. Le divin maître attend de nous que nous fassions fructifier nos dons, comme le banquier fait fructifier notre argent. Que nous ne trouvions jamais frères et sœurs dans la situation de cet homme cité par Jésus. Souvenez-vous, au verset 26 de Matthieu 25. « Vaut rien, fainéant, pourquoi n'as-tu pas fait fructifier le talent que je t'avais confié ?» Frères et sœurs, ces dons sont autant de bénédictions que Dieu nous demande de mettre au service des autres. C'est simple. Au tout début de ma conversion, vous savez, j'ai fait cette prière à Dieu. Moi, je m'en souviens, parce que comme c'était hier, hein, pourtant c'est en 86. « Seigneur, je te donne ma vie, je te l'offre, je te l'abandonne, mais s'il te plaît, que ma future famille et moi-même, nous ne manquions jamais de rien. » Cette simple prière qu'aurait pu faire un enfant, eh bien, a reçu l'approbation de Dieu. C'est vrai, j'ai été béni dans le domaine spirituel. Dieu m'a donné une vie spirituelle épanouie en Christ. Il m'a béni, et nous y reviendrons, en me donnant une formidable épouse et 3 filles. Moi qui étais célibataire et qui pensais vivre toute ma vie comme ça. Et Dieu nous a bénis matériellement quand ma famille et moi-même n'avons jamais manqué de rien. C'est vrai, Wardia, ou pas? Vous voyez, on entend souvent dire qu'il ne faut pas demander pour soi des bénédictions à Dieu. Vous avez certainement déjà entendu ce genre d'affirmation qui ne repose d'ailleurs sur rien. Personnellement, moi, je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. Car pour que nous soyons bénis et bénir les autres, ben nous devons demander à Dieu la bénédiction. Par exemple, comment est-ce qu'on peut boire dans une bouteille qui est vide? Pas possible. Pourtant, moi, je mets 3 conditions à ce que je viens de dire. Alors, la première, soyons clairs, le but de ma vie, c'est Dieu et rien que Dieu. Croire en Jésus-Christ, lui offrir ma vie, lui être fidèlement attaché, qu'il me bénisse ou non. S'il ne me bénit pas, je continue à croire en Jésus-Christ et je continue à être fondé sur lui. Si je sers Dieu pour qu'il me bénisse ou parce qu'il me bénit, alors la bénédiction devient un but et Dieu un moyen pour l'obtenir. Ça, c'est l'évangile de la prospérité. Servez Dieu et vous serez béni. Ce n'est pas du tout ça dont je parle. Comme le dit la sœur Rebecca quand on préparait ce culte, c'est un retour sur investissement. Ben oui, on investit en Dieu, puis on dit, ben, on va récolter des... Ce n'est pas du tout ça. La deuxième chose, être béni ne signifie pas vie tranquille, mimile, vous savez, une vie cool, sans problème. Bien souvent, les chrétiens qui vivent les plus grandes bénédictions sont aussi ceux qui traversent de très très difficiles épreuves et livrent de difficiles combats spirituels contre l'ennemi. Ça vous rappelle quelque chose, dimanche dernier, contre Satan. Job était un homme intègre, béni de Dieu, et vous savez quelle dure épreuve il a dû traverser. Nous, par exemple, avec Wardia, on a été bénis, c'est vrai, mais Wardia a failli mourir deux fois à la naissance de Solène, et puis quand elle est tombée et qu'elle s'est fracturée le fémur. Moi, je suis passé aussi par un cancer. On vit des épreuves, des choses très très dures, mais ça ne nous empêche pas de continuer à faire confiance à Dieu en toutes choses. Et puis troisièmement, être béni ne signifie pas être meilleur que les autres. Ce n'est pas parce qu'on est béni qu'on est meilleur que les autres. Dieu est un Père qui nous encourage par des bénédictions. Il prend soin de nous, il donne comme il veut et comme il juge bon de donner à qui il veut. Moi je me souviens qu'étant jeune, je ne sais pas si ma sœur s'en souvient, qui est là, mon père, pour m'encourager à prendre des responsabilités, eh ben, il me donnait 1 franc chaque fois que je lavais sa voiture. Bon. Il ne donnait pas à ma sœur, c'est pas ma sœur qui faisait la voiture, il donnait autre chose à ma sœur, mais pas, voilà, moi j'avais ça, et je lavais sa voiture, et il venait vérifier si sa voiture était propre ou pas propre, et j'avais 1 franc. Donc ça me permettait de m'acheter des bonbons, des choses comme ça. C'était sympa. Alors, d'abord, je me demande si je ne sais pas trop. Alors, Dieu bénit la famille. La famille, vous savez, c'est un lieu privilégié de la bénédiction de Dieu. La famille, c'est l'expression la plus simple de l'Église, qui est le corps du Christ et là où s'exerce sa divine présence. Dans Matthieu 18, 20, là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Est-ce que vous avez cette notion de la famille, que c'est une petite église? Dans la Bible, la famille est souvent retranscrite par la maison. De Samuel 6, 11, l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom de Gath, et l'Éternel le bénit, lui et toute sa maison, c'est-à-dire toutes celles et ceux qui habitent sous son toit. Dieu veut une famille solide. Dans ce monde sans Dieu, où tout part à volo, où la notion de valeur a disparu, eh bien la famille est en totale décomposition. Les couples se font et se défont, les familles éclatent, se recomposent, puis parfois se décomposent. Dieu, lui, veut construire avec l'aide de son peuple des familles solides et bien fondées. Ça, c'est important. Jésus donne l'exemple de 2 hommes qui veulent construire chacun une maison. Il est facile de transposer cet exemple au couple et à la famille. Matthieu 7, versets 24 à 27. Voyez, l'un est prudent, il est avisé et bâtit sa maison, son couple, sa famille sur le roc. Dans la Bible, le roc, c'est Jésus-Christ. L'autre est insensé, il ne réfléchit pas, il bâtit sa maison, son couple et sa famille sur le sable. Il n'évalue pas les difficultés de la vie. Son but n'est pas d'être fondé sur Jésus-Christ et Dieu n'est pas présent du tout dans ses projets. Jésus dit « La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre ces 2 maisons. Celle qui était fondée sur le roc, Jésus-Christ a tenu, l'autre qui était fondée sur le sable s'est écroulée et sa ruine a été grande. » dans le couple, dans la famille, quand les crises surviennent, quand les difficultés apparaissent, quand les catastrophes frappent de plein fouet, nous qui sommes faibles, nous avons besoin d'un Dieu fort qui nous aide, nous soutient et nous encourage à tenir bon. Ce n'est pas nous qui allons résister, c'est Dieu qui est notre force. Frères, sœurs, personne n'est à l'abri de rien. Et moi le premier, je ne suis pas à l'abri de rien. Enfin, je suis à l'abri de rien. Mais lorsque le couple, la famille est fondée en Christ, alors je ne parle pas de religion, des religieux, mais fondée en Christ, lorsque les deux époux sont engagés dans une relation vraie, profonde avec Dieu, eh bien la maison a toutes les raisons de tenir. Et je vais vous lire deux demi-psaumes sans les commenter. Le psaume 127, versets 1 et 2. Et essayez de transcrire ça à votre couple et à votre famille. Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. C'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous mangez un pain gagné avec peine. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voilà. Parce que c'est Dieu qui donne. C'est pas nous qui... On n'a aucune gloire à tirer de ce qu'on fait. C'est Dieu qui nous donne. Et le psaume 128, versets 1 à 4, qui montre les bénédictions qui accompagnent l'homme qui craint Dieu. « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu profites alors du travail de tes mains. Tu es heureux. Tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans ton foyer. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. » C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Dieu bénit. Oui, il bénit encore aujourd'hui. C'est vrai, frères et sœurs, lorsqu'on construit sa vie, sa famille avec Dieu, bien Dieu nous bénit et nous sommes une bénédiction pour l'Église, nos voisins, nos collègues de travail, à qui nous pouvons témoigner. Et surtout, nos enfants. C'est important que nos enfants voient le témoignage de leurs parents. Parce que c'est eux qui vont être la génération suivante et qui vont apporter aussi à leurs enfants. J'aimerais conclure en disant que Dieu bénit aussi son peuple matériellement. Il prend soin de celles et ceux qui placent leur confiance en lui. Dans le beau psaume 23 écrit par David, eh bien, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce que j'ai demandé à Dieu, c'est d'être comme David. Moi, j'ai demandé qu'on manque de rien. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Philippiens, ne dit rien d'autre. Éphésiens 4, 19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Comme Dieu a pris soin de son peuple en le nourrissant de la manne pendant 40 ans dans le désert, eh bien Dieu n'abandonne jamais celle ou celui qui espère et s'attend à lui. Vous savez ce qu'a écrit David ? Psaume 37, verset 25, ça doit nous faire réfléchir. « J'ai été jeune, dit David, j'ai vieilli, mais je ne me souviens pas d'avoir vu le juste être abandonné et sa postérité mendier son pain. » Dieu nous bénit dans nos besoins et bien souvent au-delà de nos besoins, bien plus. Dieu fait des largesses à celles et ceux qui marchent dans ses voies. 1 Timothée 6, 17, « Dieu nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions, c'est pour nous. » Ces largesses de Dieu donnent à ses enfants une sensation de paix et de confort. C'est ce qu'exprime David dans le beau psaume 23. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige vers les eaux paisibles. Lorsque Dieu nous bénit matériellement, eh bien, il est bon de réfléchir aussi sur le sens profond de ces bénédictions. Ce n'est pas simplement pour nous. Certes, Dieu nous bénit parce qu'il nous aime, il veut que ces bénédictions soient un témoignage pour les non-croyants, mais surtout Dieu nous interpelle pour que nous réfléchissions que ces bénédictions ne sont pas le fruit de notre propre marche, de notre propre mérite. 1 Corinthiens 4, verset 7, « Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu ?» C'est vrai, on l'a reçu. Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu ? Ben oui, puisque j'ai reçu, ça ne m'appartient plus. Cette réflexion, cette prise de conscience va sagement nous diriger dans deux directions. La première, c'est ce qu'on a fait ce matin, c'est la gratitude qui nous pousse à remercier Dieu pour tous ses bienfaits. Et là, c'est encore David qui nous en donne l'exemple. Psaume 103, verset 2. « Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Est-ce qu'il nous arrive, nous, de remercier Dieu pour les bienfaits qu'on reçoit? Moi, je le fais tous les matins. Franchement, je remercie Dieu tous les matins et j'exprime ma gratitude, ma reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il m'accorde. Et la seconde direction, eh bien, toutes ces bénédictions nous sont aussi accordées pour que nous les mettions à la disposition de la gloire de Dieu. Par exemple, ouvrir sa maison aux autres, donner, aller faire des courses et donner de la nourriture à ceux qui en manquent, partager son argent. Ce qui m'appartient, appartient à Dieu. Vous avez cette notion? Ce qui m'appartient, ça ne m'appartient pas à moi seul, mais ça appartient aussi à Dieu. Le message que nous lance Paul à nous qui sommes destinataires de belles bénédictions de Dieu, 2 Corinthiens 6, 13, et ça sera ma conclusion. « Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez votre cœur. Élargissez votre cœur. » Frères et sœurs, en ouvrant notre cœur, en l'élargissant, en donnant une part de nos bénédictions, nous pratiquons ce que Dieu attend de nous, être bénis afin d'être une bénédiction pour les autres. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.